On va commencer par un mot de prière. Seigneur, merci parce que aujourd'hui nous célébrons ta résurrection, ton retour de la mort physique à la vie. Seigneur, c'est inimaginable. Et en même temps, c'est l'aspiration de tous les hommes, de toutes les femmes, surtout quand un être bien-aimé vous est arraché, que ce soit par la vieillesse, la maladie, les accidents, et malheureusement maintenant on doit inclure les attaques terroristes. Et lorsque la vie est partie, Seigneur, notre souhait c'est de la retrouver, c'est de pouvoir communiquer, retrouver les êtres que nous aimons. Seigneur, tu as vaincu la mort en ressuscitant le jour de Pâques. Seigneur, aide-nous à être des témoins de cette vérité. Merci parce que c'est ce à quoi tu nous appelles. Seigneur, nous te remettons ce temps, ce culte. Et nous pensons aussi à nos frères dans les autres églises, et frères et sœurs dans les autres églises de Nice, de la région, de la France, mais aussi du monde entier. Avec une pensée toute particulière pour nos frères persécutés qui se réunissent peut-être en ce moment au péril de leur vie. Protège-les, Seigneur, fortifie-les, que ta réalité soit d'autant plus forte pour eux, Seigneur. Nous te remercions dans le nom de Jésus pour cette célébration que nous pouvons joyeusement faire aujourd'hui parce que tu es ressuscité, tu es vraiment ressuscité. Amen. Il y a 2 semaines, Tonio préparait son étude du jeudi soir et il m'a appelé parce qu'il m'a dit que l'électricité agissait de façon bizarre ici et il y avait des coupures, l'électricité revenait, mais il était vraiment perplexe. Donc je suis venu le retrouver pour essayer de voir ce qui se passait. On a mis en connexion notre ingénieur favori, Craig, qui est un très bon diagnosticien de pannes électriques. Et finalement, il s'est avéré qu'après avoir essayé de brancher, de rebrancher, de faire des tests, que ce n'était pas propre à l'église. Quand je suis sorti finalement dans la rue et j'ai vu que la rue était éteinte. Il y avait un problème d'alimentation du quartier, il y avait un câble souterrain qui avait des problèmes de phase. Et donc, par moments, ils avaient tout éteint, par moments, ils rebranchaient, ça marchait partiellement, peu importe, mais c'était un problème qui nous a fait perdre du temps. Mais en même temps, ça nous a alertés sur un problème que nous ignorions. Nous avions des BAES qui ne fonctionnaient pas. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un BAES, voyez ces petites boîtes au-dessus des portes. Ce sont des blocs autonomes d'électricité, d'éclairage de secours. Et d'habitude, on n'y prête pas attention parce qu'il fait soleil ici. On ne se réunit pas trop souvent le soir, très tard. Mais normalement, quand il fonctionne bien, s'il y a une coupure d'électricité, ces blocs vont briller davantage que maintenant. Ils vont donner assez de lumière pour que les gens trouvent les issues de secours. Alors ici, c'est pas trop compliqué, on est rentré par là, donc normalement on ressort par là. Ne courez pas par là, vous ne trouverez pas d'issue de secours. Mais ces blocs sont là pour guider les gens vers la sécurité, vers le salut en quelque sorte. Alors vous voyez, c'est le pasteur, quand il voit une panne de BAES, il pense tout de suite au salut. Et en fait, c'est un petit rappel que nous vivons dans un monde qui périt. Nous vivons dans un monde qui se meurt. non seulement parce que l'économie va pas, parce qu'il y a du terrorisme, parce qu'il y a des maladies incurables et des choses comme ça, mais surtout parce que l'homme est affecté par la maladie du péché qui le destine à l'enfer. L'enfer. Croyez encore à ces trucs-là, vous, l'enfer ? Sachez que la Bible parle plus de l'enfer que du paradis. C'est un lieu réel, c'est un lieu de tourments éternels, parce que c'est là qu'on est séparé éternellement de Dieu. Et donc, notre rôle à nous, c'est d'être des BAES. Vous l'aviez jamais su, ça. Qui fonctionne exactement ? Alors, comment ils fonctionnent, ces BAES ? En fait, ce sont des accumulateurs. Lorsque, en temps normal, ils se chargent avec l'électricité. Et lorsque l'électricité est coupée, il y a un passage aux accumulateurs. Et l'électricité qui a été emmagasinée, elle sert à alimenter la lumière. Et comme le faisait remarquer Élodie, il faut qu'on soit des BAES qui fonctionnent. Il faut qu'on soit des BES qui soient branchés en temps normal avec Dieu pour être capables de faire face aux périodes difficiles qui peut-être nous attendent de notre vivant. Mais cette idée de témoigner, parce que votre témoignage, il peut mettre des personnes à l'abri de la mort éternelle. Et il n'y a pas de meilleur témoignage que de leur dire, de leur parler de Pâques. Alors Pâques, pour le commun des mortels, maintenant les gens malheureusement lisent plus les publicités de Carrefour ou de Lidl que leur Bible. On distribue des milliers de prospectus pour acheter des chocolats, acheter du gigot d'agneau. Et la semaine dernière, avec Xavier, on faisait le stand à la fac et on avait un questionnaire sur Pâques. Et j'ai eu l'occasion de parler avec une jeune pakistanaise. Pakistanaise qui n'avait absolument aucune idée de quoi on parlait. Quand on parlait de Pâques, quand on parlait de Jésus, quand on parlait de la croix. Et donc j'ai pensé que c'était peut-être bien de vous expliquer, de vous rappeler qu'est-ce que c'est que Pâques. Pour que vous puissiez être des BAES qui brillent autour de vous. Alors il y a différents aspects. Il y a une tradition païenne due à l'astronomie. Il y a une histoire de l'Ancien Testament. Et puis il y a le Nouveau Testament qui donne un éclairage nouveau. Les peuplades anciennes remarquaient qu'à une certaine période de l'année, on allait vers plus de lumière du soleil. C'était le printemps qui arrivait. Et au passage de l'équinoxe de printemps, qui veut dire qu'il y a autant de temps de nuit que de temps de jour, ils célébraient le printemps. Et c'était encourageant parce que on allait vers les beaux jours. Ils ne passaient pas encore à l'heure d'été, je crois. Ils vivaient avec le soleil. J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal avec le passage à l'heure d'été. Maintenant, les smartphones font ça tout seuls. Mais hier soir, je dois vous dire une petite parenthèse, qu'en mettant mon réveil pour être sur la plage à 7 heures, qui en fait était 6 heures de notre ancienne horloge, je me suis dit, si je mets l'heure de réveil à 6 heures, est-ce que mon smartphone va être trop smart et va penser que je veux me réveiller à 7 heures ou à 5 heures ? Donc finalement, j'ai mis la durée du sommeil. Je savais que j'avais que 5 heures à dormir, donc j'ai mis le minuteur pendant 5 heures. Ils n'avaient pas à se faire de soucis pour passer à l'heure d'été. Eux, ils vivaient avec le soleil et ils se réjouissaient quand ils voyaient les jours rallongés, qu'ils voyaient qu'il y avait plus de jours que de nuits. Et donc, ils remarquaient et que ça affectait la vie sur la terre, qu'il y avait les animaux se reproduisaient, il y avait des petits lapins, il y avait des oiseaux qui revenaient, etc. Donc ça, c'était en rapport avec l'astronomie. La Pâque juive dont on va parler, elle, c'était une fête fixe. C'était le 15 du mois de Nissan et il n'impliquait que le seul cycle lunaire. Alors la célébration chrétienne, elle fait référence au cycle solaire, avec cet équinoxe qui est un symbole de renaissance, mais c'est devenu une fête mobile qui peut varier dans notre calendrier du 22 mars au 25 avril. C'est pour ça que cette année, ça tombe le 27, ça tombera jamais, à moins qu'on ait un nouveau gouvernement ou une nouvelle religion officielle. Ça ne tombera jamais avant le 22 mars et ça n'arrivera jamais après le 25 avril. Les règles de calcul de la date de Pâques ont fait l'objet de beaucoup de controverses. Finalement, c'est un concile, c'est-à-dire une réunion des évêques de l'Église en l'an 325 de notre ère, le concile de Nicée, c'était pas à Nice, c'était à Nicée, qui a fixé la célébration de Pâques. Et là, c'est très simple. C'est le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Comme ça, la prochaine fois qu'on vous demande c'est quand Pâques l'an prochain, vous leur dites c'est quand la date de la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Je plaisante, mais c'est pour ça que ça bouge sans arrêt. Alors, d'abord, dans l'Ancien Testament, on va se tourner dans l'Exode. L'Exode 12, c'est page 78 dans les Bibles qu'on vous a passées, si on vous a passé une Bible second 21. Page 78, l'Exode, chapitre 12. C'est là qu'a été instituée la Pâque. C'est la célébration, ou la fête plutôt religieuse, qui est encore célébrée aujourd'hui chez les Juifs. C'est la fête la plus ancienne, la plus célèbre chez les Juifs. Si vous vous souvenez, les Juifs étaient esclaves en Égypte. Dieu avait demandé à Moïse de libérer son peuple en le chargeant d'aller demander au roi d'Égypte, le Pharaon, qu'il les libère. Mais les Juifs constituaient une main-d'œuvre bon marché pour la construction des nombreux monuments de l'Égypte ancienne, les pyramides et d'autres grands monuments. Et donc le roi, le Pharaon, ne voulait pas les laisser partir vraiment. Dieu a permis à Moïse d'invoquer des désastres sur l'Égypte, des grands malheurs, ce qu'on a appelé des plaies ou des fléaux, pour essayer de faire fléchir le Pharaon. Ces plaies ou ces fléaux étaient au nombre de 10. Au début, c'était l'eau qui était changée en sang, l'eau du Nil qui était changée en sang. Et lorsque le pharaon voyait ça, il était prêt à laisser partir les Juifs, mais il changeait d'avis. Alors Moïse invoquait une deuxième plaie, c'était les grenouilles qui pullulaient partout, qui mouraient, qui sentaient. Puis après, ça a été les puces ou des moustiques. La quatrième, ça a été des mouches piquantes, comme des petites abeilles qui faisaient des blessures difficiles. Ensuite, les troupeaux ont eu des maladies. Après, il y a eu des ulcères sur la peau. Après, il y a eu la grêle. Après, il y a eu des invasions de sauterelles qui ravageaient tout, qui mangeaient tout, les récoltes. Après, il a fait nuit pendant 3 jours. 3 fois 24 heures, la nuit complète. Et puis la dixième plaie, ou dixième fléau, ça a été d'invoquer la mort des premiers-nés de l'Égypte. Et on va lire ce passage, la première Pâque. L'Éternel dit à Moïse, c'est chapitre 12 de l'Exode, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. » Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Est-ce que vous avez beaucoup de garçons célibataires en pleine santé ou pas? Ce sera, ça c'est une parenthèse, verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, le petit d'une chèvre, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain, et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau, au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez, cet agneau, rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc Dieu instruit par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron, son frère, que les familles juives doivent sacrifier un agneau en bon état, et qu'ils vont le faire rôtir, ils vont le recevoir comme repas, avec quelques ingrédients, des pains sans levain, des herbes amères. Et puis, ils devront être prêts à bouger rapidement. Ils devront être prêts à partir à la hâte lorsque ça arrivera. Et puis, continuons, il explique ce qu'il va faire l'Éternel. « Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Puis il y a cette phrase très importante, si vous avez un crayon, n'ayez pas peur de souligner dans vos Bibles, je vous demande de ne pas souligner dans les Bibles de près. Il est dit, « Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Et puis, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Le levain était un symbole du péché. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du premier au septième jour sera exclue d'Israël. Interdiction de manger du pain avec du levain qui ferait lever le pain. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, le septième jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le 14e jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangerait du pain levé sera exclue de l'Assemblée d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite. L'institution de la Pâque juive. L'idée, c'était donc de faire ce sacrifice et de recueillir le sang et de le mettre sur le linteau et sur les côtés de la porte. Et ce sang de l'agneau, il servait de signe. Il servait de signe. Et l'ange exterminateur qui allait passer dans les familles du pays d'Égypte et allait sacrifier le premier-né, il allait voir le sang sur la maisonnée, sur la maison, et il allait passer au-dessus. Le mot de passer au-dessus, qui est bien traduit en anglais par Passover, je ne sais pas comment on dit en allemand, en hébreu c'est le mot pesha, qui nous a donné le mot de Pâques. Ça veut dire survoler, ne pas détruire ce qu'on survole. On en parlait dans notre questionnaire de Pâques à la fac de lettres. Il y a une convention qui a été signée dans les années 50, je crois que c'était en 52, la convention de Genève, qui est supposée réglementer la guerre. C'est bizarre de penser qu'on peut réglementer la guerre. C'est un peu comme il y a des règles pour jouer au rugby. Dieu merci, quand on joue contre les Anglais ou quand on joue au foot contre les Allemands, on ne va pas jusqu'à les égorger, essayer de les tuer, à faire exploser des bombes. On joue selon un règlement. Et dans ce règlement, qui est souvent ignoré dans les combats malheureusement aujourd'hui, dans les conflits, parce que les gens ne respectent plus rien, l'idée c'est que si on voyait une croix rouge sur un bâtiment, ça voulait dire que c'était un hôpital. Et les bombardiers avaient pour consigne de ne pas bombarder les hôpitaux. C'était un signe qu'ils avaient déjà versé du sang. Ils avaient déjà été blessés, ou qu'ils sont blessés, et donc on demande un peu d'humanité, merci de ne pas détruire les hôpitaux où les gens sont déjà bien amochés, bien souffrants, entre la vie et la mort peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est exactement le même concept. Et c'est peut-être pas pour rien que c'est une croix. Alors c'est Henri Dunant, un Suisse, vive les Suisses, qui a organisé la croix rouge. Et aujourd'hui, normalement, si vous mettez une croix rouge sur votre toit, les bombardiers, les aviateurs qui respectent les conventions de guerre de Genève ne vous bombarderont pas. Alors c'est vrai qu'il y en a qui profitent de ça pour mettre une croix sur leur état-major, et se dire que comme ça, ils n'ont pas à craindre d'être détruits parce qu'on va penser qu'ils sont un hôpital. Ça, c'est donc la Pâque juive. Les fêtes juives de l'Ancien Testament, elles avaient une signification historique. Donc aujourd'hui encore, les Juifs fêtent la Pécha, la Pâque juive, au singulier. Cette signification historique, c'était une commémoration d'un événement qui s'était passé dans l'histoire. Donc, il y avait ce sens pour Pâques. C'était une société agricole, agraire. Les gens vivaient de l'agriculture et d'élevage. Et puis, il y avait aussi une dimension de sacrifice dans les fêtes juives. c'était des sacrifices qui étaient offerts à Dieu. Vous avez remarqué, quand on a lu qu'il fallait, rôtir, il ne fallait pas le bouillir à l'anglaise, oups, il fallait le rôtir et rôtir aussi, faire cuire les entrailles, tout ce qui était à l'intérieur. C'était un sacrifice, quelque part c'était complet. Il y avait un sacrifice qu'on appelait l'holocauste, qui était, ou le burnt offering en anglais, où tout était brûlé. Les prêtres ne pouvaient même pas en profiter. Là, on faisait rôtir et on allait manger l'agneau. Et puis, on a dit que les fêtes juives avaient une dimension historique, agricole, sacrificielle, et puis surtout une dimension prophétique. C'est la beauté de lire la Bible, de la connaître, de comprendre que l'Ancien Testament, il annonce le Nouveau Testament, que le Nouveau Testament, il accomplit les promesses ou les prophéties de l'Ancien Testament. Lorsqu'on réalise cette unité de promesses et de réalisation, et qu'on sait que la Bible a été écrite sur une période de 1500 ans par plus de 50 auteurs en 3 langues, on se dit qu'elle ne peut avoir été écrite que par Dieu, sous l'inspiration de Dieu. C'est notre conviction. C'est pour ça qu'on l'étudie livre après livre, chapitre après chapitre. Et cette dimension prophétique, dans le cas de la Pâque, souvent ces prophéties, elles préfigurent des événements futurs, notamment sur la venue de Jésus-Christ sur terre. D'abord à Noël, son incarnation, et puis son retour que nous annonçons, parce que après Pâques, on sait qu'il va être enlevé dans les cieux, qu'il va retourner auprès du Père où il est maintenant, mais la Bible nous promet, nous prophétise qu'il va revenir à la fin des temps, qu'il va mettre un terme à l'immoralité, aux violences, aux guerres, à la corruption, par une période de grande tribulation, c'est souvent le nom qu'on donne à cette période. Et quand on voit les événements et la direction, les tendances économiques, guerrières, etc. de notre monde, on se dit on devient de plus en plus proche de ce retour de Christ. Abraham avait eu à Dieu lui avait demandé d'offrir son propre fils Isaac en sacrifice sur le mont Moria, qui se trouvait à Jérusalem. Il est dit que Abraham avait pris le bois pour l'Holocauste, pour ce sacrifice que Dieu lui avait demandé. Il l'avait mis sur son fils Isaac, il lui avait demandé de porter le bois. Il avait pris dans sa main le feu et le couteau. Il va avoir un petit brûleur de feu et pas d'allumettes, il n'y avait pas de briquet. Et puis ils marchèrent tous deux ensemble. Et puis il y a le fils Isaac qui demande à son père, d'un seul coup il réalise, mais on doit aller offrir un sacrifice, et où est passé l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham a cette réponse prophétique: mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et il continue. On sait qu'en fait, c'était par la foi Abraham qui avait prié, à qui Dieu avait promis une descendance. Abraham était prêt à obéir et à sacrifier son propre fils, pensant que Dieu était capable de le ressusciter. Et ça aussi, c'est une superbe prophétie concernant le Père, Dieu le Père, qui va sacrifier son fils. Dans le cas d'Abraham et d'Isaac, au dernier moment, Dieu montre à Abraham un bélier qui s'est pris les cornes dans un buisson et qu'il offre en sacrifice. Mais Pâques, ça célèbre aussi la crucifixion de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, offert par le Père en sacrifice pour le rachat de nos péchés. Vous vous souvenez aussi que dans Jean voit venir Jésus à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Plus loin, Paul, dans 1 Corinthiens 5, 7 et 8, va dire « Purifiez-vous du vieux levain. » Encore une fois, le levain qui causait une corruption, qui faisait une putréfaction qui était une bonne putréfaction. Aujourd'hui, quand vous mangez du pain, vous voyez des bulles. Ces bulles-là sont dues à une putréfaction contrôlée. C'est du levain qui en évoluant, dégage des gaz. Et Paul disait « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie, de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. » Dans il y a plusieurs passages qui parlent du levain des pharisiens. C'était l'hypocrisie, le mensonge des chefs religieux qui voulaient donner l'impression d'être proches de Dieu, mais qui dans leur cœur étaient loin de lui. Ça, c'est dans Matthieu 16, 6, si vous voulez noter. Jésus a parlé du levain des sadducéens. Et ça, c'était le rationalisme. C'était de refuser a priori toute forme de miracle, que tout peut s'expliquer par la science. Ça, c'est dans Matthieu 16, versets 6 et 12. Et puis, il a aussi parlé du levain des Hérodiens. Ça, c'était les matérialistes. Ils vivaient pour leur plaisir, pour leur confort, pour leur luxe. On a beaucoup de passages qui expliquent, notamment dans 1 Pierre 1,18, page 1383 dans la Bible que vous avez entre les mains, si on vous a passé la seconde 21. 1 Pierre 1,18 et verset suivant. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel et sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Souvent, les chrétiens disent, j'ai jamais entendu encore un chrétien qui disait « Je voudrais être un BAES, mais je ne sais pas comment faire. » Mais maintenant que vous savez ce que c'est qu'un BAES, ça veut dire être un témoin brillant, un témoin lumineux, un témoin juste qui montre la sortie de secours. La sortie de secours qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et le meilleur résumé que vous puissiez trouver, c'est un passage encadré, à connaître par cœur ou au moins à retrouver facilement. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 15, si vous pouvez vous y tourner. Je n'ai pas le numéro de la page, mais c'est après, dans le Nouveau Testament, c'est plutôt vers la fin. C'est après le livre des Actes. Vous allez tomber sur 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, un peu plus loin. 1 Corinthiens 15. Paul parle aux habitants de la ville de Corinthe, il parle aujourd'hui aux habitants de la ville de Nice, et il nous dit « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. » Et voilà ce qu'il nous dit « Je vous ai transmis avant tout le message » que j'avais moi aussi, reçu. Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Conformément aux Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il était paru à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants, ça c'était à l'époque, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité le troisième jour. Plus loin, Paul dira que si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes des hommes les plus malheureux. Si la résurrection n'est pas un événement digne de foi, alors notre foi est vide. Vide de sens. Si quelqu'un parmi vous peut me convaincre que la résurrection n'a pas eu lieu, je rends mon tablier, je démissionne de ma fonction de pasteur, je ne sais pas ce que je vais aller faire, je vais peut-être aller à la pêche, comme Pierre qui retournait à la pêche, mais sachez que la résurrection est un fait avéré. C'est un fait historique. Il n'est pas à mettre sur le même niveau que le petit lapin de Pâques, que les licornes, ou que le Père Noël, ou que la petite souris qui vous apporte de la monnaie lorsque vous perdez une dent. Non, c'est un événement inscrit dans l'histoire, et tous ceux qui ont essayé de le dénigrer, de montrer que ce n'était pas possible. On ne peut pas revenir à la vie après qu'on ait été mort. Ils partent de ce principe et donc ils rejettent toute possibilité de miraculeux, même de la part de Dieu qui a créé l'univers, l'homme, la terre, l'univers, toute chose. Dieu peut s'affranchir des lois qu'il a lui-même créées pour un temps. Et c'est le cas pour la résurrection. Tous ceux qui ont voulu attaquer des grands esprits, des esprits brillants, des avocats, des juristes, des spécialistes de droit, tous ceux, sans exception, qui ont essayé de montrer que ce n'était pas possible, ont finalement baissé le genou devant Jésus et sont devenus des chrétiens. Si vous avez des amis qui vous disent que « Quoi ? Tu crois à la résurrection et tu crois au Père Noël ? » Dites-leur, étudie les faits de près et tu verras. Il y a déjà toute cette dimension prophétique à laquelle on a fait allusion dans l'Ancien Testament. Mais après, il y a simplement des règles de bon sens. Les apôtres, après que Jésus ait été attrapé et crucifié, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils sont partis faire une campagne d'évangélisation à Jérusalem avec des micros, des groupes de rock chrétiens. Non. Ils se sont cachés comme des poltrons. Ils avaient tellement peur que ce qui est arrivé à leur maître leur arrive aussi. Ils se cachaient. Et puis, les évangiles nous racontent qu'ils l'ont rencontré. Et là, il y a un changement de personnalité fantastique. Eux qui se cachaient, maintenant, c'est eux qui ont annoncé dans le monde entier de l'époque la vérité de la résurrection, la vérité de l'amour de Jésus-Christ mort pour nos péchés, au péril de leur vie. Alors certains disaient, oui, ils se sont mis d'accord pour monter une petite boîte, comme des escrocs qu'on voit aujourd'hui. Ça existe encore, les escrocs, aujourd'hui. Je vous partage un peu ma vie, là j'ai passé pas mal de temps avec des syndics, parce qu'on est en train de changer de syndic. Mais on a appris en fait que dans l'ascenseur, il y a un téléphone. On paye près de 200 euros par an, un téléphone qu'on n'utilise jamais. Et il y a une des personnes du conseil qui, à plusieurs reprises, a essayé de téléphoner pour voir si ça marchait. Et en fait, il tombait sur des communications entre la France et l'Afrique. Il y a des opérateurs qui peuvent contrôler et voir qu'il y a certaines lignes qui ne sont pas utilisées beaucoup, et donc ils les récupèrent pour faire des escrocs. Je ne sais plus où j'en étais, mais ça existe encore. Ils ont dit, on va voler le corps et on va dire qu'il est ressuscité. Toi, tu seras le chef. Moi, on va faire une bonne petite affaire qui va bien marcher. Non, parce que ces personnes, pour la plupart, sont mortes pour leur foi. Et quand on vous menace de mort parce que vous avez dit un mensonge, généralement vous dites « Pousse, on ne peut plus plaisanter, alors je racontais une galéjade. » Non, ils sont allés jusqu'au bout, ils sont morts parce qu'ils savaient que c'était la vérité. La résurrection était un fait historique qui a donné une énergie incroyable à ceux qui ont vu Jésus-Christ, qui étaient sûrs qu'il était ressuscité. Et puis si certains d'autres pensent qu'en fait c'est les chefs religieux qui s'opposaient à Jésus qui ont dit « Il nous a déjà cassé les pieds quand il était vivant, on ne veut pas qu'il nous le ressorte ou qu'il se passe quoi que ce soit ». On va enlever le corps, on va le prendre, mais pour faire ça, il aurait fallu qu'il défie la garde des soldats romains. Les soldats romains, ils risquaient la vie s'ils laissaient partir quelque chose qu'on leur avait donné à surveiller. Donc ce n'était pas possible. La seule solution, c'est que c'est Dieu lui-même qui a roulé la pierre. Ça a été « The first rolling stone », la libération de Jésus-Christ, la libération de la vie. Il est venu à la vie. Et ça, vous pouvez l'expliquer aux gens qui mettent en doute votre foi. Il n'y a pas d'autre explication rationnelle. On n'est pas dans le domaine de la fantaisie, de l'imagination, de la légende, des marionnettes, des dessins animés, des jolis petits lapins qui gambadent dans l'herbe, des œufs de Pâques. Pourquoi il y a des œufs à Pâques? Parce que justement, les racines païennes, c'était le retour du printemps, les animaux commençaient à se reproduire, on trouvait des œufs, les gens s'offraient des œufs. Pourquoi il y a du chocolat à Pâques dans les catalogues de Lidl ou de l'Intermarché? Parce que des commerçants astucieux se sont dit, on va faire des œufs en chocolat, on va s'en mettre plein les fouilles. Et c'est ce qui se passe. Mais la réalité historique de la résurrection, elle demeure. Et elle est votre source d'énergie. Avec la conviction de la résurrection, votre BAES, il brille. Vous êtes des BAES qui brillaient. Amen. Une autre chose, et je terminerai par là, c'est que vous le vouliez ou non, La Bible parle que Jésus, c'est notre Pâque, c'est lui le sacrifice ultime. Tous ces animaux qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament, que certains voudraient sacrifier encore, mais ils n'ont plus de temple, c'est des prophéties, ce sont des rappels de quelque chose qui est déjà arrivé. Jésus-Christ est ressuscité. J'allais dire, une chose très importante, c'est que la résurrection, elle est vraie, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. Des fois, on a l'impression qu'on peut supprimer la réalité en disant qu'on n'y croit pas. Le chômage a augmenté depuis quelques années. Vous pouvez dire, c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'il a augmenté. La résurrection, vous pouvez dire, j'y crois pas. Mais elle s'est passée. Et la chose importante qu'il faut bien noter, c'est qu'on le voit dans le cas des disciples. La résurrection, elle ne porte du fruit dans votre vie, dans la vie des hommes, que si vous y croyez, si vous l'embrassez. Les disciples, jusqu'à ce que Jésus leur apparaisse en personne, ils ne voulaient pas croire à la résurrection. Et ils continuaient de se cacher, d'avoir peur. Ils vivaient comme des mécréants, des gens qui ne croient pas en Christ et à sa puissance. Ce n'est que lorsque ils l'ont vu, ce n'est que lorsque Thomas a pu mettre sa main dans les plaies de Jésus qu'il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu, il est tombé à genoux ». Alors vous dites « Ah moi si je pouvais le voir, ce serait facile, j'aurais cru ». Alors vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux physiquement, mais vous pouvez le voir avec votre intelligence, avec votre raisonnement, en sachant que la résurrection, c'est un fait historique, prouvé, rationnel. Et vous pouvez le voir avec les yeux de votre cœur. Si vous ouvrez votre cœur à lui, il va venir transformer votre vie. Il va vous donner une vraie raison de vivre. Il va vous donner le désir de partager cette bonne nouvelle autour de vous. Vous n'allez pas vouloir garder ça de façon égoïste. Si vous savez que la porte de secours, ce sont ces deux portes et que vous voyez la fumée qui arrive et qu'il y a des gens qui sont par terre, vous n'allez pas leur dire « Oh, je vais pas être bigot, je vais pas leur imposer mes vues. » Non, vous allez les prendre, vous allez tirer. Jusqu'à la porte de sortie, on voit, ça s'est passé à Bruxelles il n'y a pas longtemps, on voit des gens qui ont tiré les gens vers la sécurité. Puissions-nous tous avoir ce cœur, cette conviction. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que tu es ressuscité. Tu es vraiment ressuscité. Et ça change tout, Seigneur. L'apôtre Paul nous disait de nous souvenir de Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Parce que ça change tout, Seigneur. Ça change notre vision du monde, ça change notre façon de vivre au jour le jour. Ça change notre amour pour les autres. Nous avons quelque chose d'important à leur proposer. Nous avons quelque chose de vital à partager. Quand nous doutons de ton amour, Seigneur, nous pouvons nous rappeler de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Quand je me sens coupable, indigne de son amour, je peux me souvenir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Quand je me sens seul, abandonné par mes parents, mes amis, je peux me souvenir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Quand je suis épuisé, fatigué, vanné, crevé, je peux me souvenir de Jésus-Christ qui régénère. Quand j'ai peur, quand je suis inquiet pour l'avenir, quand j'ai peur pour ma famille, mes enfants, je peux me souvenir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Quand je suis heureux, joyeux, je peux me souvenir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts pour le remercier. Dans le deuil, je peux me souvenir de lui ressuscité d'entre les morts. Et devant ma propre mort, je peux me souvenir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Parce que comme il a été ressuscité, il nous promet qu'au dernier jour, il va nous ressusciter, nous aussi, pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour ce cadeau incroyable. Aide-nous à être des blocs autonomes d'éclairage, de salut. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.